Vivre FM, podcast. Jusqu'à 13h,
la parole aux aidants sur Vivre FM.
Christophe Bougnot,
Michel Guimel-Chambonnet.
Bonjour, c'est La Parole aux Aidants. Soyez les bienvenus, on est heureux de vous retrouver comme chaque vendredi pour cette émission consacrée aux aidants familiaux. Vous aidez au quotidien un enfant, un conjoint, un parent. Cette émission est la vôtre et la psychologue Michel Guimel-Chambonnet vous répond. Elle répond aussi aux questions internet et Facebook en fin d'émission. Marc aide quotidiennement sa femme Sabine, atteinte de la maladie de Huntington, pour les médicaments, la toilette et l'habillement face aux problèmes moteurs, aux pertes intellectuelles et aux difficultés de caractère provoquées par cette maladie génétique. Marc a bien du mal à faire accepter l'intervention de professionnels à domicile à Sabine, qui continue à nier la réalité de la maladie. La psychologue Michel Guimel-Chambonnet le conseille pour négocier les aides et ne pas s'épuiser. Elle conseille Marc Issandou, qui est président de Huntington France, et vous conseille aussi vous qui vivez la même situation. La parole aux aidants, vous aidez, on vous aide.
La parole aux aidants, avec Malakoff Médéric.
Bonjour Michel.
Bonjour Christophe et bonjour à tous.
Bienvenue, c'est La Parole aux Aidants. On est heureux de vous retrouver comme chaque vendredi à midi sur Vivre FM. Cette émission est consacrée aux aidants familiaux. Vous aidez au quotidien un parent, un enfant, un conjoint. Vous rencontrez des difficultés, vous avez des solutions à partager. N'oubliez pas que cette émission est la vôtre. Vous pouvez témoigner au 01 56 88 40 20. Pour les questions un peu plus délicates, pour les plus timides, vous pouvez poser une question sur vivrefm.com, sur la page Facebook. Dans la dernière partie de l'émission, Michel Guimel-Chambonnet répond à toutes vos questions. On accueille dans quelques instants notre aidant du jour, mais d'abord Michel, l'info de la semaine. L'UNAF a présenté le guide sur les salariés, un guide sur les salariés aidants à l'occasion de la 16e journée nationale travail et handicap du syndicat Force Ouvrière. C'est vous Michel qui nous avez signalé cette info. Être aidant a un impact sur le travail et sur la progression dans la carrière, notamment pour les femmes, qui endossent souvent ce rôle d'aidant principal de leur enfant handicapé et qui sont par ailleurs déjà victimes d'inégalités salariales. Nous essaierons d'aborder ce sujet au cours d'une prochaine émission, mais comment on peut trouver des solutions pour se faire soutenir dans l'entreprise, notamment lorsqu'on s'estime lésé ou lorsque c'est compliqué de concilier le travail quotidien et l'aide à la maison pour son proche dépendant?
Eh bien, je vais dire la même chose que ce que je dis très souvent, il faut en parler. C'est-à-dire qu'il faut dire à ses collègues, à ses supérieurs hiérarchiques, quand il y en a, la situation dans laquelle on se trouve, qui peut expliquer parfois certaines fatigues. Quand on n'a pas dormi de la nuit parce qu'on s'est occupé de son enfant, c'est vrai que le matin qui suit, on est un peu moins opérationnel. Mais c'est pas parce qu'on est flemmard ou parce qu'on se fiche du travail. C'est simplement qu'on n'a pas la, on n'a pas la force pour tenir sur tous les fronts. Je pense qu'il faut vraiment le dire le plus simplement possible. Et on est souvent étonné par le soutien qui va venir spontanément de la part de la plupart des collègues. Probablement pas tous, évidemment, mais la plupart vont tout à fait comprendre. On peut demander une répartition des tâches certains jours un peu différentes. Enfin, il y a forcément moyen de s'arranger. Quelquefois, on peut aussi obtenir des horaires décalés quand des entreprises tournent en 3-8. Enfin, il y a toutes sortes de choses qui sont possibles, mais personne ne peut le deviner. Quand on est face à quelqu'un qui ne dit rien, on ne peut pas savoir quelle vie il a derrière, en dehors de l'entreprise. Donc, si on n'en parle pas, eh ben, ça restera lettre morte.
Est-ce que le représentant syndical est un soutien intéressant pour le salarié qui aide un proche dépendant et qui rencontre des difficultés, des problèmes?
Il peut, mais pas seulement. Je pense que c'est vraiment l'ensemble de la collectivité professionnelle qui peut aussi aider. Si le représentant syndical est quelqu'un d'humain qui comprend les choses, oui.
Et surtout s'il y a une situation de discrimination avérée, alors là.
Oui,
c'est pas
alors là,
chose.
Mais à ce moment-là, c'est pas parce qu'on est aidant qu'il y a discrimination. Il y a discrimination, et il faut lutter contre elle, de toute façon.
Merci Michel pour ces conseils. Ne pas hésiter à en faire circuler la parole. C'est
tout à
effectivement
fait.
Un conseil qu'on donne
c'est
souvent.
L'essentiel.
Si vous avez vécu une difficulté au travail liée à votre situation d'aidant familial, vous pouvez témoigner dans l'émission 01 56 88 40 20. C'est le numéro du standard de Vivre FM. Notre aidant du jour accompagne au quotidien sa femme Sabine qui souffre de la maladie de Huntington, une maladie neurodégénérative qui altère progressivement les capacités physiques et intellectuelles. Il s'engage également pour les autres, puisqu'il est président de l'association Huntington France. Bonjour Marc Issandou.
Bonjour.
Bonjour.
Marc, vous êtes avec nous au téléphone. Vous vivez dans l'Essonne avec votre femme qui a été diagnostiquée en 2009. La maladie de Huntington est une maladie génétique héréditaire qui concerne 6 à 8 000 personnes en France et qui évolue souvent rapidement. Expliquez-nous ce que votre femme Sabine ne peut plus faire aujourd'hui et pour quel geste de la vie quotidienne vous l'aidez.
Disons que les problèmes se situent au niveau moteur en premier lieu, puisqu'elle a de plus en plus de difficulté à se déplacer. Il y a des troubles de l'équilibre qui sont très importants. Elle n'a plus la synchronisation au niveau des gestes, donc il y a des gestes du quotidien qui sont difficiles au niveau du repas, au niveau ouvrir une bouteille, enfin voilà, il y a tous des petits gestes au quotidien qui sont maintenant impossibles. Ça concerne la partie des troubles moteurs. Puis après, il y a toute une partie de troubles cognitifs pour lesquels il y a plus de capacité à prendre de décisions, troubles de l'attention. Donc quand il s'agit par exemple de choisir les habits qu'il faut mettre le matin, ça peut prendre beaucoup de temps si on n'aide pas la personne. Il y a aussi des troubles du comportement, donc faire très attention au sommeil, très attention à l'apathie. Donc on est sans cesse en train de solliciter la personne pour il faut aller marcher dehors, il faut s'habiller, il faut voilà, il y a une apathie qui est très 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 importante, souvent sur un terrain dépressif, avec des modifications de l'humeur. Donc voilà, il y a aussi à avoir un comportement qui tienne compte de tous ces paramètres.
Actuellement, vous êtes très présent, du coup, pour gérer ces situations, et vous envisagez prochainement des aides à la personne, par exemple pour la douche ou l'habillement. C'est une réflexion actuelle?
Ah oui, complètement. C'est même une réflexion que j'ai anticipée il y a déjà plusieurs années par rapport à la salle de bain elle-même, pour qu'elle soit adaptée. Donc avant même d'avoir le besoin, on a fait les démarches et les travaux nécessaires pour avoir une salle de bain à l'italienne sans obstacle, avec des toilettes surélevées, des bars, etc. Donc ça on l'a anticipé. Et puis il y a effectivement besoin, même maintenant, mais il va y avoir de plus en plus le besoin d'aide à la personne pour la toilette, pour s'habiller, se déshabiller, tous les gestes du quotidien.
Alors c'est une question qu'on va pouvoir aborder avec vous et qui concerne aussi beaucoup de nos auditeurs qui aident un proche dépendant. Votre femme Sabine a une certaine difficulté à accepter ses aides à domicile, à accepter même d'être malade, des sauts d'humeur, de l'agressivité qui sont dus à la maladie, enfin tout ce mélange. Comment vous gérez ça?
Le moins mal possible, on va dire. C'est très très déstabilisant pour les dents, parce qu'effectivement, quand on a une personne qui est dans le déni de la maladie, quand on a une personne qui dit qu'elle va bien, qu'elle n'a pas de problème, alors que les problèmes sont d'une évidence pour tout le monde, c'est extrêmement compliqué. Donc c'est de la persuasion, c'est de la persuasion. Parfois c'est un peu imposer aussi certaines choses. Ne pas hésiter à voir. Là, elle est suivie par un neurologue qui a toujours un discours assez ferme. Donc, ma femme écoute beaucoup les recommandations du neurologue, parce que sinon, avec les dents, effectivement, au bout d'un moment, on a l'impression un petit peu de parler dans le vide. Quoi.
Vous parlez d'un piège, hein, c'est-à-dire que si on ne fait rien, s'il n'y a pas ces aides, s'il n'y a pas cet encadrement, la maladie va encore plus vite à progresser.
Ah oui, complètement. Ça, c'est clairement démontré. Il n'y a pas de médicaments qui guérissent de la maladie de Huntington. Par contre, il y a toute une prise en charge médico-sociale avec de la kiné, avec de l'ergothérapie, avec de l'orthophonie, avec les aidants, qui permet de ralentir la progression de la maladie. Ça, c'est une évidence. Et c'est ça qui est d'autant plus difficile, c'est qu'on sait qu'il faut sortir pour marcher ne serait-ce que 10 minutes, un quart d'heure, et les efforts qu'il faut déployer pour que la personne accepte de sortir et de faire cette marche sont très importants. Mais il faut le faire. Si on ne fait rien, on baisse les bras, c'est la maladie qui gagne. Quoi. C'est
Michel Guimel-Chabonnet.
Tout à fait.
Accepter, insister, imposer, comment on fait, puisqu'évidemment...
Je suppose que c'est une des choses les plus difficiles pour vous, monsieur, c'est de rester calme, de ne pas vous énerver, de ne pas gronder, en quelque sorte, quand votre épouse refuse de faire certaines choses.
Extrêmement difficile.
Bien sûr, mais c'est tout à fait. Mais je crois que vous avez bien raison, c'est la socialisation qui est le médicament principal pour toutes les maladies neurodégénératives. Maintenir la personne en vie coûte que coûte et jusqu'au bout. Et pour nous, humains, se maintenir en vie, c'est rester des êtres sociaux.
Qu'est-ce qu'on dit alors s'il y a un conflit là en temps réel, si on a du mal à convaincre son proche dépendant qu'il faut accepter une infirmière tous les matins par exemple pour la toilette et pour l'habillement, comment on lui dit, qu'est-ce qu'on lui dit, est-ce qu'on peut lui montrer des choses?
Eh ben on fait comme monsieur a fait, c'est-à-dire que on commence très longtemps avant que le besoin soit vraiment d'en parler. On parle comme il a dit, la salle de bain a été refaite, repensée. Avant même que ce soit devenu une nécessité. Le personnel qui viendra en renfort à la maison, c'est la même chose. On en parle avant que l'infirmière ou l'aide-soignant soit nécessaire pour la toilette, de façon à préparer le terrain en quelque sorte. De la même façon, on va essayer de discuter pour une promenade. Si on se met en route mentalement, suffisamment longtemps à l'avance, on peut dire, bon, bah, si tu veux te reposer encore 10 minutes, d'accord, et on fait la promenade après. Ça laisse une espèce de marge de manœuvre, mais on ne lâche pas l'élément sur lequel on travaille au moment où on le travaille. Il faut tenir le cap. Je pense que ça, c'est la chose la plus difficile, tenir le cap sans se mettre en colère, sans s'énerver et surtout sans bousculer la personne malade. Parce que on pourrait être tenté de la secouer en disant, bon, bouge, tu sais que ça va te faire du bien. Et ça, c'est évidemment à ne pas faire.
Marquis Sandou, vous avez trouvé des solutions, des stratégies comme ça pour pouvoir parler, aborder ces sujets avec le temps. J'imagine que ces situations sont un peu épuisantes parfois. Il y a des gros ras-le-bol.
C'est extrêmement épuisant et c'est effectivement pourquoi autour de la maladie de Huntington, on considère qu'il n'y a pas que la personne malade qui est, bon, elle est directement affectée par la maladie.
Bien sûr.
Tout l'entourage qui est affecté.
Bien sûr.
Parce que c'est épuisant, démoralisant, en plus il y a le caractère génétique, donc il y a aussi les enfants qui peuvent éventuellement avoir hérité ou pas de la maladie. Donc c'est tout un entourage qui est affecté et effectivement c'est épuisant.
Votre épouse par exemple, parce que ça pourrait l'aider à accepter la maladie, de voir un psychologue, mais elle le refuse ça.
Même avant qu'on ait fait le test génétique, elle a toujours refusé d'avoir un soutien psychologique, arguant du fait qu'elle allait très bien, qu'elle n'en avait pas besoin.
Situation difficile, Michel.
C'est une situation difficile et malheureusement tellement courante. Mais en effet, le public en général pense qu'on a besoin de psychiatre ou de psychologue quand on est fou. Ce qui n'est évidemment pas vrai du tout. On peut tous avoir des moments de faiblesse sur le plan affectif et avoir besoin de parler avec quelqu'un, mais le quelqu'un n'étant pas un bon copain ou une bonne copine va pouvoir être plus à distance et du coup plus objectif dans ce qu'il va entendre et dans ce qu'il va répondre. C'est tout l'intérêt des psychologues et des psychiatres, c'est qu'ils ne sont pas impliqués dans ce qui vous arrive. Donc leur réponse est plus efficace.
Témoignage de Marc Issandou aujourd'hui dans La Parole aux Aidants. Vous pouvez vous aussi prendre la parole chaque vendredi 01 56 88 40 20. En fin d'émission, Michel répond à vos questions internet et Facebook. On se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite.
Vous écoutez La Parole aux Aidants avec Christophe Bougnot
et Michel Guimel-Chambonnet.
La Parole aux Aidants, c'est jusqu'à 13h, votre rendez-vous du vendredi consacré à vous qui aidez au quotidien un parent, un enfant, un conjoint. Vous pouvez témoigner dans l'émission et être conseillé par Michel Guimel-Chambonnet, 01 56 88 40 20. Témoignez comme Marc Issandou qui est avec nous au téléphone. Marc aide sa femme Sabine qui souffre de la maladie de Huntington, une maladie neurodégénérative qui altère les capacités physiques et intellectuelles. Marc Issandou est aussi président de l'association Huntington France. On parlait juste avant l'émission de la difficulté pour votre épouse d'aller voir une psychologue, un psychologue. Vous le faites. Vous, c'est une aide dont vous avez besoin et vous avez fait cette démarche d'aller voir le psychologue?
Oui, tout à fait. Soit un entretien individuel ou bien dans le cadre de groupes de parole qui sont organisés au centre de référence. Mais effectivement, je ne reste pas seul dans mon coin et j'ai besoin d'aller parler avec soit d'autres aidants, soit avec la psychologue.
Parce qu'il y a des grands moments de fatigue, des grands moments de tension aussi, hein, c'est ça.
Voilà, et puis ça permet aussi de de partager l'expérience, éventuellement d'avoir des petits conseils, et puis ça fait du bien, quoi.
Michel Guimel-Chabonnet, oui, ça ne peut pas influencer positivement son épouse que de voir que son mari est aidé par ses consultations en psychologie.
Ça peut éventuellement la faire réfléchir, voilà, l'influencer, je ne sais pas. Mais par contre, ce qui serait intéressant, c'est peut-être de lui proposer d'aller ensemble voir quelqu'un pour voir comment elle souhaite que vous l'aidiez. Peut-être qu'elle n'ose pas, parce que c'est ça souvent. Les gens n'osent pas se dire les choses dont ils ont véritablement besoin et ce qu'ils sont capables de donner ou pas. Donc on reste dans des malentendus, au sens propre du terme. Mais lui proposer d'aller ensemble voir un psychologue, qui sera différent de celui que vous rencontrez, bien sûr, à ce moment-là, ça peut être comme une médiation, une possibilité de vous dire, avec l'aide du tiers, comment vous voulez l'un et l'autre, qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que elle aimerait que vous fassiez, de quoi elle a besoin, même si elle dit qu'elle va très bien et qu'elle n'a besoin de rien, mais en tout cas, comment vous pouvez articuler vos deux demandes, et c'est plus facile d'en parler avec un étranger que de se le dire en face à face. Donc il faut toujours penser à cette possibilité de la médiation.
Ça peut être une piste, Marc Issandou.
Oui, tout à fait.
Alors la difficulté aussi d'en parler en famille et avec les enfants, vous ne souhaitez pas spécialement que vos enfants, notamment votre fille qui habite pas très loin, aident particulièrement votre mère. Pourquoi ?
Parce que dans la mesure où ma fille a fait le test génétique et malheureusement elle sait qu'elle a hérité du gène déficient et donc elle est sûre à 100% qu'elle développera la maladie à son tour un jour, c'est extrêmement difficile pour elle de se construire une vie de jeune fille, d'avoir des projets, si au quotidien elle a un miroir de ce qui va lui arriver dans peut-être 10 ans, 20 ans ou 30 ans. Donc j'essaie au maximum de la préserver, même si c'est quasiment impossible, mais de la préserver de ça, quoi.
On comprend votre point de vue. Est-ce qu'elle est demandeuse de cette aide? Alors évidemment, j'imagine qu'elle voit sa mère comme une fille voit sa mère, mais elle veut peut-être aller plus loin aussi, aider.
Elle aide, mais c'est vrai qu'elle n'y tient pas forcément, quoi. Donc si je ne la sollicite pas, ça, je dirais que ça lui convient, parce que là en plus ces derniers temps la maladie a quand même progressé. C'est vrai que c'est difficile pour elle à supporter, quoi. Donc elle peut le faire, mais moins je lui en demande et mieux je pense que c'est pour elle, quoi.
Michel Guimel-Chabonnet.
Oui, alors moi je voudrais aussi dire quelque chose qui est tout à fait en contradiction avec ce que vous venez de dire, monsieur, parce que vous dites que ça peut lui donner c'est l'image de ce qu'elle va devenir un jour, mais d'abord on ne sait pas si on n'aura pas trouvé des choses avant que votre fille soit suffisamment âgée pour développer vraiment la phase active de la maladie. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, elle peut en tirer un enseignement, à savoir, dès qu'elle en aura l'argent, par exemple, organiser son appartement pour l'utilisation d'un fauteuil roulant ou l'utilisation des bars, comme vous avez dit, ou des toilettes surélevées. Il y a un certain nombre de choses qu'elle peut anticiper et elle n'aura pas la surprise. Parce que la surprise, c'est toujours générateur d'angoisse et de tout ce qui est fait en urgence est beaucoup moins bien fait que tout ce qui est fait quand on a le temps de s'organiser. Donc, il y a un aspect, effectivement, miroir assez négatif, mais il peut y avoir aussi un aspect positif, comment je vais organiser ma vie pour que cette maladie ne vienne pas la perturber complètement et en tout cas me laisse un laps de temps aussi long que possible pour vivre confortablement, agréablement.
Je suis d'accord, mais je pense que ça c'est un discours tout à fait valable, mais un discours d'adulte.
Oui.
Donc pour une jeune fille de 25 ans, je pense que ses préoccupations sont plutôt quelle perspective de carrière j'ai, est-ce que je vais trouver un mari, est-ce que je vais faire des enfants, ce sont plus des préoccupations comme ça.
Bien sûr.
Et donc c'est là-dessus que effectivement sont taxés assez...
Oui, sa réflexion d'aujourd'hui, oui, bien sûr.
Sa réflexion d'aujourd'hui, elle est là-dessus. Comment est-ce que je peux me construire un avenir avec une famille, étant donné que dans 20 ans, je n'ai pas envie de montrer à mes enfants ce que moi je suis en train de subir, et voilà. Sinon, effectivement, il peut y avoir, on peut essayer de retirer des aspects positifs, mais je pense que c'est pas à son âge, quoi.
Peut-être on peut dire que il ne s'agit pas pour cette fille de se consacrer totalement à la maladie et à sa mère, mais pas non plus d'en faire un tabou absolu, c'est
absolument,
ça.
Absolument, tout à fait. C'est ce qui me semble, oui. Elle a les mêmes préoccupations que n'importe quelle fille dont la maman est malade. Et donc c'est vrai que elle fait un certain nombre de choses quand vous la sollicitez, mais bon, si elle peut y échapper, c'est très bien.
Voilà.
Donc, oui, mais ça c'est normal. Enfin, c'est normal. Je ne sais pas si c'est normal, mais c'est habituel. Toutes les filles font ça. Elles préfèrent sortir et vivre leur vie que de s'occuper de leur mère, évidemment. Elles ont raison, d'ailleurs. Mais par contre, peut-être là, alors, pour le coup, ce serait intéressant que votre fille puisse aller voir quelqu'un, un psychologue ou un psychiatre, pour parler de ce qu'elle ressent en voyant sa mère malade, avec l'épée de Damoclès qui est sur elle, elle développera peut-être un jour la même maladie.
Mais bon, ça, elle le fait, elle est suivie, elle aussi. Hein.
Mmh. Ah bon, très bien.
Oui, oui.
D'accord.
Ah non, mais c'est assez paradoxal, je dirais, c'est que tout l'entourage quasiment est suivi, à part la personne malade elle-même. Hein. Donc.
Oui, mais alors, écoutez, ça, c'est moyennement grave, je dirais, parce que en fait, quand quelqu'un entre dans le cabinet du psychothérapeute, il faut bien savoir que c'est toute la famille qui entre en même temps, même quand elle n'est pas là. Donc, c'est quand vous allez parler pour vous, en fait, vous parlez pour tous. Donc, forcément, ce dont vous parlez va avoir un retentissement aussi sur votre comportement, même à votre insu, et du coup, sur les autres de votre famille.
D'accord.
Ça, c'est pour ça qu'il y a toujours un bénéfice à aller, à ce que un se dévoue en quelque sorte pour aller parler au nom de la famille.
Alors Marc Issandou, vous travaillez en libéral, donc vous pouvez adapter votre emploi du temps pour être présent auprès de votre épouse. Il y a aussi votre engagement à l'association Huntingdon France en tant que président. Comment, tout ça doit vous prendre, j'imagine, beaucoup de temps, hein. Comment vous imaginez l'avenir, la suite, puisque la maladie évolue sans cesse et les capacités cognitives de votre femme vont encore diminuer? Vous dites que ça, vous y pensez, hein, tous les jours.
Ah ben, j'y pense tous les jours, parce que effectivement, pour le moment, je peux encore m'absenter une ou deux heures et sans problème. Mais effectivement, je ne sais pas, à partir du moment où comme la marche est de plus en plus difficile, si à un moment donné le déplacement ne se fait plus qu'en fauteuil roulant, là il va falloir effectivement avoir vraiment l'aide à domicile, et il va falloir que je m'organise de manière totalement différente. Donc effectivement, tout ça s'anticipe. Et,
oui.
Peut-être qu'il y aura un moment où ça deviendra dangereux aussi pour elle d'être à la maison, mais vous dites qu'il n'y a pas de structure spécifique. Et puis en préparant cette émission, on vous a demandé si vous en aviez parlé avec elle de cette éventualité, et vous avez dit que vous n'en avez, évidemment, je n'en ai pas parlé. Vous avez dit ce mot évidemment.
Évidemment, oui, parce que pour, voilà, encore une fois, c'est... Elle ne ressent pas de besoin particulier, elle ne ressent pas le besoin d'avoir une aide à domicile, même si elle est consciente qu'effectivement elle a des déséquilibres et que la marche est plus difficile, mais elle n'a pas conscience de ses difficultés.
Est-ce qu'il faudra la première blessure, la première chute, Michel, pour qu'elle comprenne? Je suis un peu dur dans mes propos, mais...
Non, mais quelquefois on se dit que c'est ça la solution pour faire un espèce de déclic. Non, mais je pense que monsieur, vous pouvez peut-être, et ça vous en parlerez de votre côté, mais vous pouvez peut-être aussi dire qu'il y a un certain nombre d'aides qui seront pour votre épouse, mais surtout pour vous. C'est-à-dire que s'il y a une aide à domicile qui vient, ça va vous dégager un certain temps pour vous, parce que vous ne pouvez pas en consacrer plus à votre épouse. Il faut que vous alliez au travail, d'autant plus qu'évidemment elle ne travaille pas, et qu'il faut quand même qu'il y ait des revenus qui rentrent dans la maison. C'est vous qui avez cette responsabilité, et je pense que vous pouvez aussi mettre en avant vos propres difficultés et vos propres obligations. Donc si elle ne peut pas, si elle ne voit pas l'intérêt pour elle d'avoir une aide à domicile, vous en tout cas vous la voyez pour vous.
Mais ça c'est sûr, si elle a vraiment... pour moi, c'est obligatoire.
Bien sûr.
Il y a effectivement une grosse différence de perception entre moi qui pense que le besoin, de toute façon, il est déjà présent.
Oui.
Et il va être encore plus important dans les semaines peut-être ou dans les mois à venir.
Oui.
Et la perception de la personne malade elle-même qui, elle, pense qu'il n'y a aucun besoin parce que de toute façon, je suis là pour faire les
voilà.
choses.
Et vous pouvez dire que vous ne pouvez plus en faire plus. Que vous ne pouvez pas aller au-delà. Et je pense que c'est ça. Bon, ça sera peut-être, elle le vivra peut-être pas très bien dans un premier temps, mais préparez-la en lui disant que vous avez besoin d'être soutenu parce que vous pouvez pas en faire plus.
Oui, tout à fait. Oui.
Et ça c'est quelque chose à quoi on ne pense jamais quand on est aidant, c'est que on existe aussi et pas dans la rivalité avec la personne dépendante, mais il faut que l'aidant soit en bon état pour pouvoir soutenir la personne malade aussi longtemps que possible et aussi longtemps qu'elle en aura besoin. Et donc, il faut que l'aidant soit aidé.
Alors, un mot sur l'association Huntington France qui existe depuis 78, hein, le but de faire connaître la maladie, d'aider les malades et les familles et aussi de faire avancer la recherche. Huntington.fr, c'est le site internet et il y a encore beaucoup de travail, j'imagine, Marc Issandou. Hein.
Oui, il y a beaucoup de travail parce que justement, il y a beaucoup d'appels de familles avec des aidants qui sont épuisés, qui n'ont pas de solution, qui sont isolés, qui ne savent pas quoi faire avec une personne malade qui a justement, dont la maladie est arrivée à un stade où c'est impossible pour la personne de s'en occuper toute seule. Et donc on est devant des situations d'urgence catastrophiques et avec des problèmes familiaux quasiment tout le temps parce que le conjoint ne peut plus, il est parti, ou les enfants ne veulent plus, voilà. Donc ce sont des situations familiales extrêmement douloureuses. Et donc on essaye d'apporter des solutions ou au moins de l'écoute. Et si j'avais un conseil à donner à toute famille, à tous les aidants, c'est anticiper les démarches, anticiper les besoins, faites les dossiers au niveau des MDPH le plus tôt possible, parce que effectivement tout ça prend du temps et voilà, il faut un, ne pas rester seul, et deux, anticiper du mieux possible tous les besoins, parce que c'est un petit parcours du combattant et que c'est extrêmement épuisant, ça aussi. Les démarches administratives sont épuisantes aussi.
Merci beaucoup Marc Issandou pour votre témoignage. Merci.
Et bon courage.
Merci.
Dans quelques instants, la psychologue Michèle Guimel-Chambonnet répond à vos questions Internet et Facebook, les questions des aidants familiaux. À tout de suite.
Vous écoutez La Parole aux aidants.
Christophe Bougnot,
Michèle Guimel-Chambonnet.
La Parole aux aidants, c'est la dernière partie de notre émission. Maintenant, la psychologue Michèle Guimel-Chambonnet, comme chaque vendredi, répond à toutes vos questions. Vous pouvez les lui poser sur vivrefm.com et sur la page Facebook de Vivre FM en envoyant directement vos messages. Xavier nous écrit du 13e arrondissement de Paris. Ma fille est en fauteuil et elle souhaite devenir infirmière. Je lui ai toujours dit qu'elle pourrait faire ce qu'elle veut dans sa vie. Mais nous sommes confrontés à la dure réalité. À l'issue de sa première année d'école, elle ne trouve pas de stage. Comment puis-je l'aider ?
En lisant cette question, j'ai pensé à quelque chose. Il y a tous les centres de régulation qui sont tenus par les centres de régulation, du SAMU ou même des pompiers, qui sont tenus par du personnel infirmier qui ne se déplace pas, qui répond au téléphone, qui fait du tri, qui aiguille.
Quand on a une urgence, on téléphone
voilà.
Et on est orienté.
Il y a quelqu'un qui fait ce qu'on appelle la régulation. Et ben ça, c'est un stage tout trouvé pour une jeune fille qui ne peut pas se déplacer facilement. On imagine bien qu'en fauteuil roulant, ce serait difficile pour elle de courir d'un patient à l'autre. Mais par contre, dans un centre de régulation, elle aurait tout à fait sa place. Alors, je ne sais pas du tout si c'est faisable, mais en tout cas,
il y a d'autres exemples probablement, des
voilà.
spécialités plus simples où on consulte avec moins d'efforts physiques, puisqu'il s'agit de ça quand même.
Absolument, et surtout moins de déplacements en grande vitesse, on va dire.
Alors ce papa peut la conseiller, est-ce qu'il doit être à l'origine de tous les conseils, de tous les choix de sa fille? Évidemment, quand on est un parent, on trouve injuste que son enfant puisse pas faire ce qu'il veut et on a envie de
l'aider. Non, mais elle pourrait peut-être demander à l'ordre des infirmiers, puisque maintenant il existe, quelles sont les différentes spécialités pour un infirmier, pour un étudiant infirmier ou infirmière, pour avoir un stage qui correspond à sa capacité de mobilité. Il y a certainement des choses, moi je ne pense pas à tout, mais il y a certainement des choses qui sont possibles.
Et pas renoncer à sa profession.
Ah, sûrement pas. Bien sûr que non. Elle peut aussi peut-être être infirmière dans un centre de vaccination où elle a beaucoup moins de bousculade, on va dire. Il y a forcément des choses possibles. Il y a aussi, il faut le rappeler, des infirmiers qui sont dans les écoles, qui sont dans les centres de loisirs, qui sont dans les colonies de vacances. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc, je pense qu'elle pourrait tout à fait trouver à travailler comme infirmière, mais dans un établissement qui reçoit les enfants, un pensionnat. Enfin, il y a plein de choses. Donc, il faut pas qu'elle renonce, il faut qu'elle cherche. Par contre, la recherche va sûrement être un petit peu ardue, parce qu'il faudra aller partout, par téléphone bien sûr, mais partout, et même dans des endroits auxquels elle ne pense pas.
Question des aidants familiaux, vos questions sur vivrefm.com. Laurence nous écrit du Metz-sur-Seine. Mon fils de 9 ans est polyhandicapé à la suite d'un AVC, un accident vasculaire cérébral, à sa naissance. Il aura besoin de plusieurs aides techniques comme une tablette inclinable, un ordinateur relié à l'éclairage de la maison par exemple. Je n'ai pas les moyens de les lui payer et je culpabilise énormément. Où demander ces aides, sachant qu'on a déjà mis 8 mois à lui trouver une place en IME auprès de la MDPH?
Ben, ça fait rien. La MDPH est comme un dinosaure qui va à sa vitesse, très très lente, mais il faut quand même leur demander. Il faut aussi demander à la mutuelle des parents ce qui est possible de faire. Il faut aussi s'adresser aux associations, par exemple comme les traumatisés crâniens, peut-être que l'AVC peut entrer dans cette catégorie. Quelles sont les aides possibles? Parce que ce que nous, profanes, ne connaissons pas, toutes ces associations le connaissent et peuvent donner des informations tout à fait intéressantes. Et de toute façon, il faut essayer aussi de ne pas se décourager, ça c'est peut-être le plus difficile, ne pas se décourager et frapper à toutes les portes, y compris à la mairie de la commune où habite cette famille, parce que là aussi, il y a peut-être des choses possibles. Donc il y a peut-être des entreprises localement qui accepteront de vendre la tablette moitié moins chère ou des choses comme ça. Donc il faut vraiment aller partout.
C'est vrai aussi, Laurence a raison de poser la question. On se pose souvent ce genre de questions à la rédaction de Vivre FM, qu'on entend parler de nouveautés extraordinaires, mais toujours extrêmement chères et inabordables. Oui. Et il y a un fossé entre ce qui existe et ce qui est possible de faire.
Alors, elle peut aussi demander à ce que son enfant teste le matériel. Parce que un matériel, quand il est avant d'être mis sur le marché, il est essayé par des personnes de toutes sortes. Elle peut demander à ce que son enfant teste la tablette, par exemple, et on va la lui confier, et il va dire comment il s'en sert, qu'est-ce qui est facile, pas facile, etc. Et donc ça peut aussi être une façon d'avoir du matériel, mais sans avoir à le payer. Il faut tout essayer.
Posez vos questions à la psychologue Michèle Guimel-Chambonnet sur Facebook en envoyant vos messages. Denis nous écrit de Caen. Mon fils est trisomique, il entre dans l'adolescence. Il a 14 ans et n'arrive pas à réfréner ses désirs. Dans la rue, il interpelle les filles et essaie de les toucher. Je suis complètement démuni. J'ai peur qu'il finisse au commissariat ou pire en prison. Est-ce un problème courant? Comment l'aider à être un adulte équilibré?
Alors oui, c'est un problème courant, mais je dirais... Le mot problème m'ennuie. Ça n'est pas un problème. C'est une question que rencontrent tous les adolescents. La différence entre ce garçon et n'importe quel autre qui a appris ce qui se fait et ce qui ne se fait pas, c'est que lui n'arrive pas à tenir ses émotions. Il voit une fille, il a envie de la toucher. Mais ça, c'est le propre de tous les gamins quand ils passent dans la rue et qu'ils voient une fille.
La pensée,
ça n'a rien
tous les jeunes l'ont, et c'est le passage à l'acte qui pose problème.
Mais on ne fait pas. On ne fait pas parce que on demande d'abord à la fille si elle est d'accord. Cela étant, rappelez-vous qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de garçons qui font sans demander. Mais enfin bon, c'est pas un bon exemple. En tout cas, ce qui serait intéressant pour ce garçon, justement, c'est que de lui donner la possibilité de parler avec un psychothérapeute, même si ça paraît étonnant que je propose cette solution, de parler parce que s'il a peu de langage, il aura d'autres façons de s'exprimer. S'il a un bon langage, ça sera beaucoup plus simple, évidemment. Mais de toute façon, il peut aussi dire ce qu'il ressent, dire ses émotions, exprimer ses émotions. Et à ce moment-là, tout ce qui sera exprimé en mots ou en gestes dans un cadre sécurisant, comme le cadre de la psychothérapie, lui permettra d'être plus à l'aise avec ce qu'il ressent, avec ses sentiments, avec ses émotions, avec ses pulsions aussi. Et on pourra lui apprendre que tout n'est pas faisable comme ça dans l'instant. Il a appris d'autres choses. Il a appris à ne pas arracher un jouet à un de ses camarades à la crèche ou à l'école ou dans le centre dans lequel il est. Il a appris probablement à dire merci ou à signifier quelque chose de l'ordre du merci ou du s'il vous plaît. Donc, il peut aussi apprendre à maîtriser un peu plus ses pulsions.
Et on espère que ces questions sont abordées et apprises dans les établissements, lorsque les jeunes vivent en établissement.
Ce serait idéal, mais ça n'est pas toujours le cas, malheureusement.
Question des aidants familiaux sur vivrefm.com. Vos questions. Guillaume nous écrit d'Aubervilliers. Ma femme est malvoyante depuis un accident où elle a reçu des éclats de verre. Elle voudrait retravailler, mais hésite à demander une reconnaissance qualité de travailleur handicapé, la RQTH. Je ne sais pas quoi lui répondre. Avez-vous des informations que je puisse lui transmettre?
Oui, quelques informations. Cette reconnaissance de travailleur handicapé est intéressante parce que ça peut permettre à cette dame d'avoir un poste aménagé dans une entreprise ordinaire ou bien de travailler selon la gravité de son état, ce que je ne connais pas, mais travailler dans un ESAT, un établissement de service d'aide
par le travail,
et elle pourrait comme ça reprendre pied dans le travail, mais sans être contrainte aux horaires habituels de n'importe quel salarié, et surtout à la fatigue qui est inhérente au travail, enfin ce qui est normal, je ne sais pas si c'est normal, mais c'est habituel en tout cas. Par ailleurs, ce qui m'étonne, c'est que si elle est devenue malvoyante à la suite d'un accident, il y a forcément eu quelque chose avec les assurances. Est-ce qu'elle ne pourrait pas demander, par rapport à l'assurance et à ce qui s'est passé sur le plan administratif, si cette reconnaissance est déjà accordée ou pas? Parce que je ne peux pas croire qu'un accident passe comme ça sans qu'il y ait quoi que ce soit de fait sur le plan de la défense de la personne accidentée.
Il y a aussi la question de l'acceptation du handicap. C'est très difficile quand ça vient d'arriver de rentrer dans ces démarches administratives qui nous rappellent à chaque ligne de chaque page de dossier notre nouvel état.
C'est vrai. Mais là, je vais être un peu cynique. Quand malheureusement, on subit une perte de son intégrité physique, eh bien, il faut utiliser les ressources qui peuvent en découler. Il n'y a aucune raison de laisser quelque chose que je considère comme un droit et comme un dû, un plus loin dû, à la personne blessée. Il faut que les assurances, que la personne qui a provoqué l'accident, etc., paye pour ce qui a été fait et que ce ne soit pas la victime qui soit une deuxième fois victime parce qu'elle serait laissée sans aucune aide.
Posez vos questions à Michel Guimet-Chambonnet si vous le souhaitez sur vivrefm.com, sur la page Facebook également en envoyant vos messages. Et puis je vous rappelle que vous pouvez témoigner dans l'émission, raconter votre histoire, parler de vos difficultés, de vos solutions également. 01 56 88 40 20, c'est le numéro de téléphone du standard de Vivre FM qui vous permet de prendre la parole. 01 56 88 40 20. Merci Michel.
Au revoir Christophe.
Vivre FM, podcast.